prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. Septième partie, les sept trompettes.
Le livre de l'Apocalypse, les deux derniers rendez-vous que nous avons eus ensemble, eh bien, nous avions évoqué l'ouverture des six premiers sceaux. Et puis la fois dernière, il était question des 144 000 suivis de la grande foule sortant issue de la grande tribulation. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons tout simplement, eh bien, faire l'étude des sept trompettes. Alors, à vos Bibles, Apocalypse, chapitre 8, et nous allons donc continuer comme nous l'avons fait par le passé, commenter verset par verset pour essayer de comprendre le mieux possible, eh bien, la pensée qui nous est donnée à étudier, à considérer ce soir. Je voudrais dire tout de suite que derrière chaque trompette, il y a un ange exerçant la colère de Dieu. Voilà, on va rentrer maintenant dans les choses un petit peu plus difficiles, peut-être, à notre entendement dans ce que nous présente l'Apocalypse. Alors, je tiens quand même à rappeler que l'Apocalypse est un livre d'espérance pour ceux qui croient. Par contre, pour les incrédules, eh bien, il en va autrement, mais les choses nous sont présentées ainsi, alors on va tout simplement découvrir comment, eh bien, Dieu va agir dans son plan pour sauver ceux qui sont ses rachetés, ses enfants. Et puis, quant au reste de la terre, tous ceux qui sont en révolte contre Dieu, révolte, qui sont en opposition, eh bien, voilà, nous allons découvrir un peu leur sort qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est bien cela, c'est pas Dieu qui juge. Il n'est pas venu pour juger et condamner les hommes. Il est venu pour les sauver. À défaut de vouloir être sauvés, bien, il ne reste plus qu'une situation, c'est-à-dire la condamnation qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, ces trompettes représentent des séries de jugements qui se reproduit sans cesse. C'est comme dans l'étude précédente, quand il était question de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est à la fois à prendre en considération dans les derniers jours de l'histoire de l'humanité, où il y aura véritablement quelque chose de tout à fait précis, mais on peut dire que la grande tribulation, elle a commencé dans les premiers temps de l'ère chrétienne. Et on peut dire de même que les trompettes qui manifestent les jugements de Dieu, alors il y aura certainement dans la fin des temps, juste précédant le retour de Jésus-Christ, eh bien, la manifestation de ces jugements annoncés par ces trompettes, mais on peut dire que ces trompettes, elles n'ont jamais cessé finalement de retentir depuis, eh bien, les premiers temps de l'ère apostolique, après tout simplement, eh bien, la venue et l'apparition de l'Église. Alors, c'est comme ça qu'on peut considérer les choses sur ces deux plans. Et nous voyons que tout cela s'est manifesté au cours de l'histoire, mais sera marqué d'une manière solennelle et finale dans les derniers jours précédant le retour de Jésus. Ce sont des calamités qui frappent chaque jour, donc, en tout lieu sur la surface du globe. Par ailleurs, la fonction des trompettes est avant tout d'avertir. Dans l'Ancien Testament, il nous est parlé des trompettes avant les combats d'Israël. Et c'était pour tout simplement avertir les combattants qu'ils avaient à mener, donc, eh bien là, un engagement. Donc c'est pour avertir. Et par ces événements répétés, les hommes, quels qu'ils soient, peuvent encore, c'est pourquoi justement il y a cette réalité, s'ils le veulent, se repentir. Et nous allons découvrir qu'à chaque son de trompette, il y a des calamités, il y a des fléaux qui vont arriver, mais dans ces fléaux même, eh bien, les hommes doivent pouvoir lever la tête en disant « Mais dans quel temps nous sommes ? qu'est-ce que nous vivons et que veulent nous dire ces événements qui nous frappent d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a toujours à travers cette notion de jugement, il y a à chaque fois la proposition de la grâce et de la miséricorde de Dieu. On ne l'oublie jamais, parce que ça, c'est véritablement le message qui continue sur ses bases. Alors, on remarque également que les quatre premières trompettes frappent les hommes, les incrédules, les méchants de la terre, tout simplement dans leur être physique, c'est-à-dire, en quelque sorte, à l'extérieur d'eux-mêmes, leur être physique, alors que les trois dernières trompettes provoquent une angoisse intérieure, une anxiété, mais qui touche l'âme, et qui touche aussi, on pourrait dire, l'esprit. Je reprends les choses parce que c'est une introduction avant de commencer l'étude. Les quatre premières trompettes sont des fléaux ou des calamités qui touchent les hommes donc dans leurs ressources extérieures via la nature, c'est-à-dire leur monde. Ça peut être le ciel, ça peut être la terre, ça peut être les eaux, ça peut être ceci et cela. On va le découvrir d'ici quelques instants. Alors que les trois dernières trompettes sont des malheurs. C'est encore autre chose. Il y a une intensité dans le jugement. Fléau, catastrophe, calamité. Les trois dernières, alors ça prend des proportions beaucoup plus importantes, ce que nous dit le verset 13, je le lis tout de suite. Il nous est dit, je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre et à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. On est bien dans un crescendo devant, quelque part, la révolte des hommes qui ne se repentent pas, malgré les quatre précédents appels, les sons des quatre premières trompettes. Et vous avez remarqué, chaque trompette est annoncée par un ange. Dans le verset 13, il nous est dit que c'est un aigle. Petite nuance intéressante, parce que pour nous montrer qu'il y a une accélération dans le processus des jugements de Dieu, et l'aigle fond soudainement et à une vitesse de l'éclair sur sa proie, pour nous montrer que dans les derniers temps, il va y avoir un enchaînement de choses à une vitesse qui va dépasser finalement les hommes et des événements qui ne seront absolument pas maîtrisés par les hommes. Donc, je voulais le dire, donc, parce que ça c'est quelque chose d'important à souligner dès l'abord. Dans les quatre premières trompettes, on constate une condamnation divine sur ce que les hommes idolâtrent le plus. On va voir ces quatre premiers sons de la trompette. Mais c'est une condamnation que Dieu porte sur les idoles des hommes. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des événements qui portaient sur leur être extérieur, c'est-à-dire physique, et l'extérieur d'eux-mêmes. Alors on va commencer par la première trompette. Au verset 7, il est dit ceci, chapitre 8, verset 7. « Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. » Premier avertissement, première trompette. De la grêle et du feu mêlé de sang. Il s'agit d'une destruction qui touche un tiers. Les quatre premières trompettes touchent un tiers à chaque fois. Un tiers de la terre, un tiers des arbres et un tiers de l'herbe. Tout simplement. Pourquoi un tiers? Parce qu'on va le retrouver tout le long de notre réflexion. Un tiers est en quelque sorte la limitation que Dieu donne à la destruction dans l'espoir que les hommes arriveront à la repentance. Dieu aurait pu détruire la totalité, mais ce n'est qu'un tiers. Il va y avoir un tiers qui va disparaître à travers le fléau, et il y en a deux tiers qui vont le voir, donc qui vont vivre. Et pour noter d'une manière très, très précise, que Dieu fait encore grâce à travers tout cela. La terre dont il est question, qui est frappée, est l'emblème de la culture et de la civilisation. On le retrouvera dans le livre de l'Apocalypse quand on abordera le chapitre 13 et après jusqu'au chapitre 18, vous verrez. La terre a cette signification, donc symbole de la culture de ce monde, de la civilisation. Et comme il est question justement de ces choses extérieures, de la nature, il est question de l'agriculture, il est question de l'industrie, il est question du commerce. C'est sur cela que finalement le monde tourne, économiquement, politiquement et dans bien des domaines. Pour les richesses dites naturelles, eh bien, nous voyons que c'est l'homme qui est sanctionné en raison de son égoïsme et de son accaparation qui finalement n'a pas de limite, hein, et tout cet égoïsme, il le manifeste au prix du sang. Il est bien dit, de la grêle, du feu mêlé de sang. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, si on regarde tout simplement notre société d'aujourd'hui, on s'aperçoit comment les hommes sont avides, comment ils sont égoïstes, comment ils s'emparent des richesses de la nature. Et ce sera ça ce qui sera sanctionné, parce que c'est une véritable idolâtrie. Idolâtrie qui est touchée, qui est condamnée par ce premier jugement. Dans ses ressources, l'homme idolâtre est touché dans ses ressources nutritionnelles, puisqu'il est question de l'agriculture, et puis de tous ces métiers qui lui donnent, l'industrie, le commerce, qui lui donnent finalement de pouvoir subsister. Et dans toutes ses ressources nutritionnelles et subsistentielles, au prix du sang versé. On n'apprend rien, puisque finalement le monde de toujours ne fonctionne que de cette manière. Parce que ça devient une idolâtrie. Les peuples qui deviennent des peuples avec des ambitions impérialistes et qui dominent les autres. Et c'est là où Dieu va toucher. Et il va sanctionner et il va mettre tout cela par terre. La deuxième trompette, à partir du verset 8, il nous est dit « Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. » On comprend que ce jugement, de cette deuxième trompette, il s'agit d'une montagne, non pas une montagne physique, mais d'une montagne, quelque chose de monumental, qui est jeté dans la mer. Et les effets de cette destruction, je le rappelle, un tiers de la mer changée en sang, un tiers des animaux marins qui périssent, un tiers de la navigation détruite. Vous savez que dans la symbolique apocalyptique ou biblique, tout simplement, la mer symbolise les nations, les peuples. Dans ce qu'elles sont instables et mouvantes. Eh oui, elles sont instables et mouvantes. C'est-à-dire que ça bouge toujours. Les politiques humaines deviennent sanglantes et meurtrières à travers des régimes totalitaires et dictatoriaux. La vie est marquée par l'oppression des êtres et leur activité non réfrénée. Rien n'arrête l'avidité des hommes. Et on le voit bien aujourd'hui, on parle, enfin excusez-moi, je vais prendre un cas d'actualité, mais le pétrole, ou les richesses qu'il y a dans certains pays, qu'est-ce que l'on n'est pas prêt à faire? Et ce sont les nations qui ont de la puissance, qui se permettent cela. On le voit, c'est vraiment le grand problème d'aujourd'hui et le grand débat des révolutions qu'il y a dans notre monde, parce qu'on s'aperçoit que, pourvu qu'il y ait finalement quelque chose à retirer, peu importe le reste, même si après nous, on laisse un désert, ça n'a pas d'importance. Alors, Dieu va juger cette idolâtrie, parce que c'est une question politique, c'est une question financière, c'est une question qui, derrière peut-être une belle présentation, c'est tout simplement une accaparation des richesses et puis de l'esclavage, parce que c'est pas ceux finalement qui font le plus de travail, le plus pénible qui s'enrichissent, pas du tout. On va les laisser tout simplement dans la misère. Et Dieu va juger cette idolâtrie du pouvoir et de la domination de l'homme sur le monde, de l'homme par l'homme, Parce qu'il ne faut quand même pas s'imaginer, mais les travaux d'Égypte ne sont pas terminés. Hein. Ça continue encore aujourd'hui. Alors, je ne veux pas rentrer dans des considérations sociales, mais on le voit tous les jours, on en parle tous les jours, et je dis que l'Apocalypse est vraiment le livre d'actualité, quoi qu'il en soit. Parce que l'injustice, elle fait couler beaucoup de sang. Si aujourd'hui ça bouge ici, ça bouge là, on se révolte contre tel dictateur ou contre telle puissance économique ou ceci et cela, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Et Dieu va juger cette idolâtrie. Parce que la première était une idolâtrie, la deuxième n'en est pas moins une idolâtrie. Les hommes sont fous. Ils deviennent, là, sans morale. Il n'y a plus de morale, tout simplement quand il s'agit de mettre la main sur des richesses et s'enrichir. On le verra, ça prendra des proportions encore beaucoup plus grandes quand on arrivera au chapitre 18 avec la Grande Babylone. Vous verrez ce qu'il est dit. On en reparlera. La troisième trompette. Alors on va lire. Le troisième ange sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, ou les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors on a beaucoup discuté sur la question que nous avons lue il y a un instant. Il nous est parlé d'une précipitation d'une grande étoile, d'une étoile ardente et destruction des fleuves et des sources d'eau. Son nom nous est donné Absinthe. Et vous savez que le mot Absinthe a donné tout simplement le mot amertume. Et d'ailleurs, si l'on parle d'absinthe, ça signifie tout de suite amertume. Et la conséquence de cette calamité, de ce fléau, c'est un tiers des eaux sont polluées au point de faire mourir les hommes. Ce que je voudrais dire tout de suite, par rapport à ces eaux qui font mourir les hommes, je voulais lui donner un sens abstrait, parce qu'on sait que les eaux sont polluées. Hein. Il y a tant de décontamination, d'usines de décontamination autour de nous. Mais on va le voir d'une autre, non pas seulement sur le plan naturel, mais sur le plan abstrait peut-être. Est-ce que l'on ne peut pas voir dans ces sources dont il est question, auxquelles l'humanité tente désespérément d'étancher sa soif de jouissance et de bonheur, les arts, la culture, la science ou les sciences, la musique, l'image et tout ce que vous voudrez. Ce sont des eaux, ce sont des sources d'eau dans lesquelles les hommes essaient de se détancher pour le plaisir, j'ai bien dit pour le plaisir et pour la jouissance. Les gens sont insatiables de ce côté-là. Il y a les eaux naturelles dont on connaît la pollution, mais on peut dire qu'il y a aussi une pollution dans ce monde-là, et peut-être encore beaucoup plus grave, parce qu'elle ne touche pas les corps, elle touche l'identité des personnes, et qui vont subitement être infectées ou viciées par l'amertume du péché qui s'y mêle. Aujourd'hui, vous savez que l'on tourne la tête à droite ou à gauche, nos yeux devant ou derrière, que l'on entende, que l'on fasse ceci et cela, on s'aperçoit qu'on est dans un monde où tout est corrompu. Ouais. Et c'est un breuvage, c'est une eau que les gens prennent de plus en plus parce qu'on a les moyens, et on s'aperçoit que les gens s'infectent, grandement sans s'en apercevoir. Et ça finit en absinthe, en amertume. Parce que en cherchant le bonheur par la jouissance et par le plaisir, eh ben on s'aperçoit que finalement les gens sont de plus en plus malheureux. Ils sont infectés de l'intérieur. Alors, on peut comprendre que c'est aussi une idolâtrie, que le Seigneur va sanctionner et condamner. Il s'agit peut-être de sources d'inspiration d'ailleurs. Et quelquefois, on se prête à penser que derrière tel film ou telle réalisation artistique, ça pose véritablement des questions d'origine. On se dit, mais quelle inspiration y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui peut amener les gens, finalement, à faire cela? Et c'est comme s'il y avait un conformisme quelque chose qui les pousse, qui pousse les hommes à dire, alors que quelque part on sait très bien que sur le plan moral ce n'est pas bien, et les gens trouvent ça bien. Les gens trouvent ça formidable. Il y a un engouement qui fait que les gens disent « mais c'est extraordinaire, c'est une révélation ». Ah oui, en fait de révélation c'en est une. Hein. Mais c'est de l'absinthe. C'est de l'absinthe. Et ça se cache souvent derrière des belles histoires, derrière le beau qui est présenté, mais où il y a une véritable corruption et que révèlent des philosophies matérialistes, débordantes de révolte, débordantes de sang, de mort, de fiel, de provocation, et qui laissent un goût amer et poussent les hommes à la désespérance quand ils ont goûté à cette eau-là. Absinthe, ouais. Amertume, et qui amène les gens, après avoir fait le tour, tout simplement de penser que Dieu n'existe pas, que le diable n'existe pas, que le péché n'existe pas. Alors, si tout cela n'existe pas, alors aussi bon suicider, hein. Par toutes sortes de moyens, à court terme ou à long terme. Et on est dans une société dépressive, une société morbide. En raison de quoi? En raison de toute cette absinthe qui traîne autour de nous et qui s'offre à nos sens, parce que c'est comme cela, hein, qui s'offre, eh bien, à tous ceux qui veulent se désespérer, qui veulent se désaltérer. Dieu juge cette idolâtrie, l'idolâtrie qui s'attache à la gloire humaine, à la vanité d'une prétendue sagesse et qui fait mourir les hommes. Oui, je dis bien qu'il fait mourir les hommes. Et c'est présenté sous une forme de grande sagesse. Et derrière, ce n'est pas de la sagesse. Ou si c'est de la sagesse, comme Jacques l'écrira dans son épître au chapitre 3, il dira « Mais cette sagesse-là, elle est humaine, elle est charnelle et elle est diabolique. » Voilà. Les choses sont dites, tout simplement. Donc, première tempête, premier jugement qui ressemble aux plaies d'Égypte. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Deuxième, c'est ce que nous avons tout simplement entrevu quand il est question de la montagne jetée dans la mer et qui fait périr finalement eh bien, tout ce monde. Et puis également la troisième trompette, précipitation de cette grande étoile. Parce que ça paraît lumineux, ça paraît brillant, mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, vous le savez. On va aborder maintenant la quatrième trompette. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci, le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Il ne nous est pas dit l'origine de ce cataclysme qui vient sur le monde, mais il est suffisamment important pour nous interpeller parce qu'il s'agit des astres qui sont frappés d'obscurcissement. Les lumières s'éteignent. Voilà. L'homme à la recherche de la lumière va se retrouver dans l'obscurité ou dans la pénombre. Oui. Dans un monde crépusculaire. Lui qui cherche la lumière. Le résultat de cette calamité, eh bien, c'est le résultat tout simplement, c'est un tiers du soleil qui perd sa lumière. Vous connaissez les conséquences que ça pourrait avoir. Alors là, on ne parlera plus de réchauffement de la planète. Hein. On risque d'éternuer. Hein. On va prendre des refroidissements. Hein. Ça sera un tiers de la Lune qui se voile. Vous allez me dire, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Mais vous allez voir avec les marées ce que ça va donner. C'est aussi les étoiles qu'ils perdent leur intensité lumineuse. C'est-à-dire de toujours de plus en plus loin dans le firmament. Et conséquence, c'est que le jour s'assombrit, la nuit sans ténèbres, et c'est une catastrophe d'ordre supérieur. Je dis bien d'ordre supérieur où l'humanité n'a aucune puissance à ce moment-là, aucune puissance d'action ou même de réaction. Parce que pour aller changer les choses sur la Terre, on peut y arriver encore. Et encore, on ne maîtrise pas tout, hein, on le voit bien avec les catastrophes naturelles. On est vraiment incompétent et insignifiant, hein. Impuissant. Mais quand il s'agit d'aller décrocher la Lune, ou d'aller remettre un peu de lumière au Soleil, ou d'atteindre les étoiles, alors là, je peux vous dire que l'humanité, avec son savoir, avec sa sagesse, dont on parlait tout à l'heure, sa science, sa politique, ses découvertes, alors là, il est totalement incapable, inopérant, incapable. Et nous voyons que si l'on le considère sur le plan tout simplement climatique, c'est une chose. Mais si on le prend sur le plan spirituel, alors c'est autre chose. C'est parce que le climat sur la terre, eh bien, va changer et la terre va devenir inhospitalière. Et elle va devenir inhospitalière en raison de quoi ? Parce qu'il y aura des conséquences dévastatrices. Déjà, si nous perdions un tiers de la lumière du soleil ou de la nuit des étoiles, ça serait déjà une catastrophe. Hein ? Mais quand il s'agit d'une dimension spirituelle, alors ça change tout. Et nous voyons que l'homme cesse de piloter sa destinée à ce moment-là. Et c'est ce qui nous est dit au chapitre 13. « Je regardais, j'ai déjà lu le texte, je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre et à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. » Je vous ai dit, les quatre premières trompettes, ce sont des fléaux. Les trois autres qui vont arriver, ce sont vraiment un triple malheur. Il s'agit d'un aigle prédateur qui donne avertissement ultime à tous ceux qui ont fait de la terre leur patrie. Oui, c'est pour ça que Jésus nous dit à un moment donné, faites-vous un trésor dans le ciel et non pas sur la terre, parce que la rouille, parce que les voleurs et ceci et cela. Et nous voyons que c'est un ultime appel qui est donné dans la définition de cet animal qui fond du haut du ciel à une vitesse vertigineuse, hein, quand il est empiqué sur sa proie. Et c'est un avertissement donc à ceux qui ont toujours fait de la terre leur patrie. C'est pour ça que dans la Bible nous est dit, pour nous les chrétiens, vivez comme si vous étiez des voyageurs et des étrangers sur la terre. Parce que notre vraie demeure, elle est là-haut, elle n'est pas ici-bas. Mais il y a des gens qui n'ont que la terre, et qui sont accrochés à la terre, et qui se disent, mais il n'y a que la terre. Ils n'ont aucune espérance, aucune dimension, aucune élévation. Pour eux, c'est le corps, c'est la matière, mais où est l'âme ? Où est la dimension de l'âme ? Où est la dimension de l'esprit ? Ils n'en connaissent pas d'autres, parce qu'ils n'en voudraient pas d'autres d'ailleurs. Dieu n'existe pas. Et ils vont en faire leur trésor de la terre. Mais quand on sait à quoi est vouée la terre, eh bien leur trésor va disparaître, quoi qu'il en soit. Les trois fléaux qui suivent augurent bien d'autres malheurs. Et nous en arrivons à la cinquième trompette. Alors la lecture est un petit peu plus longue, c'est au chapitre 9, et on va la reprendre à travers 12 versets. « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. » Vous vous souvenez les fois dernières ? Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Il ne fait pas mourir, mais il tourmente. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne, semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Adabdon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici, il y a encore 2 autres malheurs après cela. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais nous avons eu un culte en novembre 2005 qui était intitulé « Pollutions occultes ». Vous le retrouvez dans les CD, vous pouvez le retrouver sur Internet parce qu'il est en permanence à diffuser. Ça s'appelait « Pollutions occultes », on avait pris verset par verset, je ne vais pas avoir le temps ce soir, mais vous pouvez vous retourner vers ce message qui avait été donné dans le détail. Je vais en dire quelques mots, rappeler quelques, Il nous est parlé de l'ouverture du puits de l'abîme. C'est pas le puits du ciel, c'est le puits de l'abîme. Et le mot abîme, vous savez qu'il l'habite. Hein, on le sait. Parce que ce sont les œuvres de Satan sur le monde. Les œuvres de Satan qui exercent des tourments et des angoisses morales et spirituelles. Ce qui confirme ce que je vous ai dit en préambule tout à l'heure, que les quatre premières trompettes touchent le physique des hommes, l'environnement en quelque sorte, leur environnement, le ciel, la terre, la mer, voilà. Maintenant, les hommes vont être tourmentés par les trois derniers malheurs qui suivent, les trois dernières trompettes, par des tourments et des malheurs intérieurs, à caractère moral et spirituel. Tout ce passage évoque le déferlement d'une puissance infernale, puisqu'une étoile est tombée. Souvenez-vous de ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Luc. Il le dira à ses disciples, en préludant en quelque sorte la victoire de la croix à Golgotha. « Je voyais Satan tomber du ciel comme une étoile. » Voilà. Donc la victoire sur le diable, sur l'adversaire, a été prise définitivement, je dis bien définitivement, par Jésus, qui s'est laissé crucifier, qui a donné sa vie. Ça semblait une défaite, mais c'était la victoire sur toutes les puissances et les autorités dans les lieux célestes. Alors aujourd'hui, qui vivons encore 2000 ans après le sacrifice de Jésus, le diable essaierait de nous convaincre qu'il est vainqueur. Or, c'est faux. Il nous est dit, Jésus l'a annoncé à toutes les générations qui viendraient après sa résurrection, après sa crucifixion et sa résurrection, que le diable était tombé, qu'il a été vaincu. Je voyais Satan tomber du ciel. Voilà, tomber du ciel. Le prince de ténèbres reçoit la clé du puits de l'abîme avec le pouvoir d'en laisser sortir les démons. Et les hommes vont s'égarer dans la fumée de la séduction, du péché, de l'erreur, des fausses doctrines, de la perversion, au point même que l'air et la lumière des derniers temps de l'humanité en seront complètement obscurcis. Est-ce que nous voyons clair? Est-ce que nous voyons bien? Est-ce que nous respirons bien dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? Ça a toujours été, hein? Mais je pense que nous allons, et ça va se prononcer de plus en plus, où l'atmosphère de notre monde va devenir irrespirable, insoutenable. Mais on est habitué. Je vais vous dire pourquoi on est habitué. Parce que s'il n'y a pas le souffle de cette fraîcheur de l'Évangile et du renouvellement que nous donne la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comme on a senti qu'une odeur, on finit par s'y habituer. C'est comme quelqu'un qui vit auprès d'un dépotoir. Au départ, il va dire « c'est terrible, terrible, terrible ». Et puis au bout d'un certain temps, il va s'y habituer. Forcément, il ne sentira plus rien. Et bien, c'est exactement la même chose dans notre monde. Les hommes autour de nous vivent, excusez-moi, dans ce contexte nauséabonde, moralement, spirituellement, et s'y accommodent parce qu'ils n'ont jamais senti autre chose. Vous savez que c'est l'apôtre Paul qui nous parle de l'Évangile qui apporte une odeur de vie. Ouais. Pour les uns, c'est une odeur de vie, pour les autres, c'est une odeur de mort, parce qu'ils ne veulent pas de l'Évangile. Ouais. Et on s'aperçoit que, eh bien, on est tellement habitué à ça que finalement, eh bien, on ne sent plus les choses. Et dans la fin des temps, il y aura une telle pesanteur, une telle oppression nauséabonde, morbide, de dépression, de suicide, de tout ce que vous voudrez, que les gens ne s'en apercevront plus. Ça fera partie finalement, eh bien, de la vie normale. Parce que la vie, par la pénétration de l'occultisme, parce que l'occultisme n'est pas en régression, hein, loin de là, hein, de la superstition des gens, y compris tout ce qui est superstitieux, occulto-religieux, le mélange, vous comprenez, du spiritisme, du satanisme, eh bien ça va devenir tellement grand, tellement gigantesque, tellement épouvantable, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le cœur mauvais de l'homme qui l'appelle, hein, qui fait les choses et qui a fait allégeance à celui que la Bible appelle Satan, tout simplement, parce qu'il s'est ouvert tout entier à l'influence d'esprits méchants, tout simplement. Écoutez, quand on lit simplement dans 1 Timothée, que je retrouve simplement le texte, regardez, l'apôtre Paul le disait il y a déjà 2000 ans, mais ça nous montre un petit peu dans quelle configuration nous nous trouvons. Au chapitre 4, il nous est dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la frétissure dans leur propre conscience. Et ils prescrivront ceci, cela, etc. Et les gens vont être complètement imprégnés de tout cela. On le reverra plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Vous avez remarqué avec moi, il est question de sauterelles également. Dans notre texte, il est question donc tout simplement ces sauterelles ressembler à des chevaux préparés pour le combat. Voilà. Les sauterelles en question sont l'image de puissances infernales qui s'attaquent aux hommes réfractaires à Dieu, incrédules au message de Dieu, avec toutes les souffrances qu'elles leur infligent, soit des terreurs, le désespoir, et avec à la clé le désir de mourir sans le pouvoir. Les hommes désireront mourir, ils ne pourront pas mourir. Et on n'en finira pas avec les tourments, avec les souffrances. Vous savez, quand on regarde un petit peu dans le travers de notre société, on s'aperçoit que les gens, ils ne sont pas très heureux. Ils ne sont pas très heureux, même dans une société comme la nôtre, de surabondance matérialiste, les gens ne sont pas heureux. Peut-être que la peur de la mort les retient encore. Mais il y en a beaucoup qui franchissent le pas. Parce que la lumière va se dérober. Il n'y aura plus de joie. La paix va se changer en tourment continuel, permanent. Et à la tête de cette armée, il nous est dit qu'il y a une autre dimension. Une autre dimension est identifiée, son chef. Le même qui a pris la révolte contre Dieu et ses créatures, déjà à l'origine de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, l'ennemi commun, le verset 11 le décrit, « Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Adabdon et en grec Apollyon. » Dans la signification de ces deux noms, Apollyon, ça veut dire destructeur, Adabdon, ça veut dire destruction. Et pour résister et échapper, une seule solution, c'est l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité. Il n'y aura pas d'autre échappatoire, il n'y aura pas d'autre issue. Et c'est ce que nous dit tout simplement encore l'apôtre Paul, qui enrichit finalement notre pensée à travers ce texte dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. Il est dit ceci, juste avant, après l'apparition de Jésus, il nous est dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ils vont se condamner, s'auto-condamner, nous pourrions dire. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que la puissance qui va se répandre, ça sera une puissance qui dominera par l'injustice, par toutes sortes de choses abominables. Et ça ne viendra pas d'en bas, ça viendra d'en haut, mais les hommes auront un cœur ouvert pour recevoir tout cela. Ce sera quelque chose de terrible, me semble-t-il. Nous en arrivons à la sixième trompette. Au verset 13, maintenant, il nous est dit que le sixième ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve, l'Euphrate, et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. C'est tout un programme. L'instigateur du mal vient d'être clairement dévoilé. On l'a appelé destructeur. Et son œuvre, c'est la destruction, on vient de le dire. Voici maintenant les effets effroyables du pouvoir de cette destruction. Il y a tout un suivi cohérent. Une guerre d'envergure nous est présentée, une guerre inouïe, ensanglante la terre. Deux myriades de myriades, si vous faites le compte, ça fait un nombre considérable. Si nous parlons pour notre époque, il y a plus de 6 milliards d'habitants. Si l'on pense que c'est un tiers, ça fera des morts, comme jamais il y en a eu. D'ailleurs, dans toutes les guerres de l'histoire de l'humanité, ça va toujours en crescendo. Quand on voit, ne serait-ce que les deux dernières du XXe siècle, la première guerre, c'était quelque chose de considérable, inouï, comme on n'avait jamais vu. La deuxième guerre, c'était encore autre chose. Parle-t-on peut-être d'un avenir où il y aura encore des destructions qui vont dépasser notre entendement? La Bible nous en parle. La violence atteint des sommets de cruauté. Et quand l'homme dit qu'il est sage et que finalement, il est capable de gérer, on va voir de quoi il est capable. La violence donc va atteindre des paroxysmes parce que l'inspirateur vient de l'abîme. Il nous est dit un tiers des hommes tués. La description qui en est faite de cette armée mi-humaine, mi-diabolique. D'ailleurs, dans l'esprit, finalement, ce sont des génies, créateurs de destruction, à travers des armes géniales de destruction. Quand je dis génial, c'est au sens péjoratif. Quand on voit ce que les hommes sont capables de faire, d'inventer, d'exploiter dans leur connaissance, dans leur science, dans leur intelligence, parce qu'on parle de guerre conventionnelle, on parle de guerre nucléaire, mais on parle de guerre également chimique, on parle de guerre bactériologique. Ouah, c'est terrible, L'homme n'a plus de limite à ce moment-là. Et c'est bien pour ça que je parle d'une armée, mi-humaine, mi-diabolique. Ça dépasse l'entendement. Et la guerre, dans tous les temps, on peut le dire, a été une calamité majeure pour tous les peuples. Ça a été le défouloir de toutes les passions les plus basses de l'homme. Quand on est dans des temps de paix, les hommes se restreignent. Ils font pas ce qu'ils veulent, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des lois. Mais en temps de guerre, tout est permis. On le voit bien, On voit bien ce que les hommes sont capables de faire, et c'est quelque chose d'abominable. Et comme nous l'avons dit précisément, que Dieu, dans les derniers temps, allait faire la guerre à la guerre. Ouais, la guerre à la guerre, pour qu'il y ait un terme. Donc défouloir avec tous les sentiments les plus bestiaux, on pourrait dire, qui se manifestent chez l'homme. La créature humaine, en ces temps de folie, peut devenir un véritable démon incarné. On en a vu apparaître, l'industrialisation de la solution finale. Comment on peut appeler ça? Et puis, toutes sortes de choses qui sont faites pour, faire mourir le plus de monde possible. Donc, démon incarné dans son ingéniosité à faire le mal. L'homme n'a pas de limite. Plus il devient savant, plus il devient puissant dans la destruction. Et derrière, ce n'est pas seulement l'homme, il y a aussi l'inspiration. Il y a aussi des idées qui viennent d'ailleurs, puisque je vous ai dit que le puits de l'abîme est ouvert. Il est ouvert. Il est parlé de quatre anges, quatre rois, présentés comme ça, qui commandent cette immense armée. Il nous est dit qu'ils sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Pourquoi l'Euphrate ? C'est intéressant de le prendre en considération parce que l'Euphrate est toujours quelque chose de symbolique. C'est la frontière au-delà de laquelle le paganisme règne en maître, c'est-à-dire l'Orient. L'Orient a toujours été caractérisé dans la Bible par d'abord l'ignorance de Dieu, avec ses idolâtries, on le voit encore aujourd'hui, avec des religions qui n'ont rien à voir avec finalement la révélation de Dieu, mais c'est le monde de l'occultisme, le monde de la magie, toutes sortes de choses. Si on veut s'en convaincre, il suffit de regarder tout simplement, ne serait-ce qu'un seul pays, les Indes, avec toute cette multitude de divinités, de toutes sortes de choses qui vont contre nature. Donc l'Euphrate, après, c'est un autre monde. C'est Israël, naturellement, un autre monde, c'est notre monde occidental. Ou s'il y a du paganisme, mais pas au même point, pas à la même densité. Ils sont quatre, ce qui indique une puissance humaine, parce que le chiffre 4, c'est l'histoire, c'est le chiffre de l'homme, entre autres, hein, avec le 6. En réalité, ce sont des démons qui n'attendent que l'heure pour détruire. Bientôt, le monde est mûr pour le paganisme et ses horreurs. La superstition généralisée, quand on parle de mondialisation, hein, et on est dedans, hein, la sorcellerie, les possessions, toutes sortes de dépravations antinaturelles, l'immoralité, l'idolâtrie, mais à un haut niveau. Alors, déjà, on est choqué de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons. Dans ces derniers temps, on n'aura pas fini d'en voir, relayé par tous les médias, parce qu'ils ont une capacité maintenant d'être informés comme jamais auparavant. Eh bien, le monde n'a connu. Ces cavaliers forcenés joignent à la force et à la férocité du lion la perfidie du serpent. Vous l'avez lu avec moi au verset 17. Hein, on l'a lu ensemble, je ne relis pas. Dans l'épisode de la cinquième trompette, les hommes voulaient mourir, mais ils ne le pouvaient pas. Ici, la mortalité est sans précédent, elle est abominable, puisqu'il nous est dit qu'un tiers des hommes vont disparaître. Alors, quand on parle de quelques milliers de gens qui sont tués, on parle dans ces dernières décennies de quelques millions qui ont disparu dans les deux dernières guerres, qu'est-ce que l'on va annoncer comme chiffre maintenant ? D'une manière ou d'une autre, soit par la guerre, soit par les famines, soit par l'immigration, soit par toutes sortes de choses, des gens vont mourir. À travers la mortalité dans les éléments qui vont se déchaîner sur notre terre, on le voit déjà. Hein. Il nous est dit que dans les derniers temps, c'est Jésus qui nous dit ça, dans les évangiles, que les hommes rendront l'âme de terreur. Terrible. J'espère que vous n'avez pas peur, hein, vous allez dormir cette nuit. Hein. Je vous avais prévenu, hein. À partir des sept trompettes, ça va devenir sérieux. Hein. Et on va en voir d'autres. Hein. Dans le détail, j'essaie d'expliquer au plus bref, hein, parce qu'il aurait fallu prendre peut-être finalement presque, hein, si on voulait rentrer dans les détails, hein, deux, trois versets, et puis se tenir pendant une heure, hein, ce soir. Mais je fais au plus vite. Hein. Cependant, puisque l'idolatrie ôte l'intelligence et fausse la conscience de l'homme, eh bien l'humanité, malgré les horreurs qu'elle vit, refuse de se repentir. On l'a lu ensemble. Il y trouve même un regain de folie qui va finir par perdre l'homme définitivement. C'est le verset 20-21, hein, où il est dit à un moment donné, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et ils ne cessèrent d'adorer les démons. Les idoles d'argent, d'or, d'airain, de pierre, etc., etc., et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur, tout simplement, idolâtrie. On peut penser à l'hystérie collective qui saisit les hommes fascinés par ces pseudo-religions qui vont avoir un rôle à jouer grandement dans le monde nouveau dans lequel nous sommes. Toutes ces religions, ces pseudo-religions, on en a parlé dernièrement, ce syncrétisme religieux qui mélangera finalement l'Évangile, la Bible, avec toutes sortes de théologies qui sont complètement étrangères à Dieu. Ce que l'on appelle le Nouvel Âge, ou le New Age, si vous voulez. Et vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont avides de tout cela. Ils courent de droite et de gauche, hein. Ils se renseignent, ils achètent des livres. Ce sont des livres d'occultisme. Mais les gens ont besoin de cela. Ils ont besoin de se rassurer. Ah, voilà. Et ils vont de plus en plus dans ce domaine. Et c'est terrible. Parce que c'est comme s'il y avait une attirance, une fascination, qui seront toutes des contrefaçons de l'Évangile, qui va illusionner notre civilisation moderne, et qui va vanter l'élévation de l'ego humain au lieu tout simplement de porter vers Dieu nos regards et nos cœurs et de nous amener à la repentance, et qui fait croire à l'homme qu'il est lui-même Dieu, tout simplement, qu'il est lui-même Dieu. C'est le vieux mensonge premier du serpent dans le jardin d'Éden. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien vous serez comme des dieux, tout simplement. Vous serez comme des dieux. Je vais m'arrêter là. J'avais encore des choses à dire, mais je vais m'arrêter là, parce que on abordera la prochaine fois la septième trompette. Et il y a entre la sixième trompette et la septième trompette un épisode que nous allons appeler, nous le verrons la fois prochaine, le mystère du petit livre au chapitre 10 et le mystère des deux témoins mis à mort au chapitre 11. Donc on reverra ça. Je n'ai pas fini encore pour ce soir, mais bon, il est tard. Et la prochaine fois que nous nous reverrons sur cette étude, ça sera le mercredi 13 avril à 20h. Et nous porterons un commentaire justement sur ces deux chapitres suivants en mettant un terme à cette étude sur les trompettes avec la septième trompette que nous pourrions intituler « Le jugement dernier ». Le jugement dernier. Après, nous passerons aux coupes. Et vous verrez que les coupes, c'est véritablement l'exécution. Les sceaux, c'était la préparation. Là, les trompettes, c'est l'avertissement. Et les coupes, elles sont déversées. Et c'est l'exécution. Et nous verrons ça, donc, dans les fois prochaines. Nous allons tout simplement terminer en remerciant le Seigneur. Si vous voulez bien vous courber avec moi quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous avons vraiment besoin de ta grâce pour comprendre toutes ces choses. C'est vrai que en écoutant, Seigneur, ce commentaire, eh bien, nous recherchons, Seigneur, peut-être toutes sortes d'éléments qui pourraient nous parler, qui pourraient nous montrer que nous ne sommes pas si loin de ces temps. Peut-être que même nous sommes réellement, Seigneur, dans ce monde. Un monde qui s'appesantit sur lui-même, qui s'enténèbre. Un monde où la corruption devient grandissante, dont, en effet, la majorité des hommes ne prennent pas conscience parce qu'ils refusent véritablement de suivre celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'est parce que véritablement ils ne veulent pas de cette lumière. Ils ne veulent pas de celui qui a dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie ». Alors, Seigneur, nous voulons te demander que tu viennes nous éclairer, nous. Oui, Seigneur, parler de l'Apocalypse est quelque chose de tellement difficile, tellement, en effet, Seigneur, inaccessible. Mais nous sommes devant toi, humblement, pour te demander que tu nous aides. Ah, tu nous éclaires, Seigneur. Et que nous puissions en tirer quelques éléments, Seigneur, pour chacun d'entre nous dans notre réflexion. Et que cela, Seigneur, nous incite à nous rapprocher de toi, à te servir, à nous consacrer, Seigneur, à vivre de plus en plus dans la vérité. Oui, Seigneur, viens aider ton peuple. Parce que nous savons, Seigneur, que si tu nous as donné ces choses en révélation, c'est pour que nous les sachions, et que nous puissions prévenir aussi tous ceux et celles, Seigneur, qui sont autour de nous. Et notre vocation, Seigneur, est avant tout d'être des ambassadeurs, d'être comme ces anges qui ont sonné de la trompette pour avertir. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, mais tiens ton Église, Seigneur, très étroitement, Seigneur, attaché à ta personne, à ta parole, et nous avons les regards tournés vers toi, parce que c'est vers le ciel, Seigneur, que nous attendons le retour de celui qui est notre délivrance, qui est notre vie, qui est celui, Seigneur, qui vient véritablement nous prendre avec lui dans sa gloire. Merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.